Ce podcast vous est proposé par Lifeproof, concepteur de coques prêt à affronter toutes les situations et qui vous permettent de vivre à fond chaque instant. Que cela soit défier les vagues ou vivre des aventures, les coques Lifeproof protègent l'un de vos outils les plus précieux, votre téléphone. Que vous optiez pour l'étanchéité à l'eau avec Free, la polyvalence avec Next ou la simplicité avec Slam, les coques Lifeproof vous permettent de faire ce que vous voulez sans hésiter. Pour commencer à vivre à fond, rendez-vous sur lifeproof.fr/lifeproof15 et économisez 15% sur votre coque Lifeproof.
RMC After Saint-Étienne. Le podcast Gilbert Bribois.
Chers supporters d'Alozio et de Patrice Carteron, bienvenue dans le podcast After Saint-Etienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts avec aujourd'hui Daniel Riolo. Daniel, bonjour.
Bonjour les amis.
Et Joss Randall, de retour, Joss du site peuplevert.fr, bien sûr, site de référence de l'actu de la Saint-Etienne. Salut Joss.
Salut Gilbert, salut Daniel, bonjour à tous.
L'évaluation de l'After, évidemment, suite au match face à Amiens de ce dimanche. Et deux débats à suivre. Que pensez-vous des débuts de Claude Puel, là, après quelques semaines maintenant? Et puis les tribunes vides à Geoffroy Guichard. C'était le cas contre Amiens. Ce sera encore le cas face à Monaco dimanche prochain. Que faut-il faire pour arrêter de jouer dans un stade à moitié vide? Ça fait débat à Saint-Etienne. Et bien sûr, le podcast After Saint-Etienne va en parler lui aussi tout de suite. Mais d'abord notre évaluation, 2-2 donc face à Amiens, un taulier, un boulet. Joss, qui est ton taulier de ce match?
Ben, j'ai envie de mettre Denis Bouanga. J'ai envie de mettre Denis Bouanga parce qu'il est impliqué sur les deux buts. Il a beaucoup travaillé sur le côté gauche dans un poste qui est a priori pas forcément le sien.
Son petit externe était délicieux.
Absolument. Il montre que techniquement il est pas maladroit. Alors après, il a tenté des choses qu'il a pas tout réussi, mais au moins il a tenté et il a montré un coffre intéressant. Il fait partie des joueurs qui sont en forme chez nous, en forme athlétique. Et comme je pense que c'est au cœur du problème entre ceux qui le sont et ceux qui le sont pas, j'ai envie de souligner quelqu'un qui fait partie de ceux qui le sont. Voilà.
Je suis d'accord. Allez, d'abord, les raisons évoquées par Joss sont justes. Mais comme j'aime bien les beaux gestes techniques, j'ai beaucoup aimé son délicieux externe sur le but de Kazay.
Bon, Bouanga, oui, on peut tous se mettre d'accord. Il y a bon match de Youssouf aussi, au milieu. Il a été pas mal critiqué ces dernières semaines, donc quand il est bon, il faut le dire aussi.
Ouais, moi je l'avais trouvé presque meilleur sur certains autres matchs, mais c'est effectivement, surtout quand on regarde son pendant à côté de lui, Yann Mbila, qui de match en match sert de moins en moins.
Ah bon? Je suis étonné quand même, parce qu'un joueur de sa classe internationale.
Ouais, c'était un long débat, Yann Mbila. Moi j'ai bien aimé aussi le. Alors,
nous enregistrons. On a un peu perdu les passes Ligue des Champions là. Je sais pas où elles ont dû rester au Rubin Kazan, non?
Elles sont restées à Rennes, surtout à l'époque. Hein. Voilà.
Honnêtement, les déclats d'Antonio.
Oh, la carrière, elle est finie déjà.
Yann Mbila, il a fait 6 plus 6 bons mois à Saint-Etienne, c'est tout.
Voilà. Oh, c'est énorme sa carrière.
Ouais, on peut le voir comme ça. Mmh. Après, je voudrais quand même souligner le bon match de Charles Abbey, le gamin, là, qui a été intéressant dans le travail qu'on peut attendre d'un attaquant de fixation. Beaucoup d'impact, beaucoup de pressing, de premier pressing. Après, il est jeune, il gère pas ses efforts, donc au bout de la 60e, je crois qu'il pouvait plus. Mais c'est plutôt intéressant, surtout pour l'avenir.
Personne n'a parlé de Kazri.
Mais dans quelle rubrique?
Taulier. Il a marqué, il a fait un bon match quand même.
Parle de Kazri? Bah écoute.
Mais toi, ce qui t'a choqué, c'est les déclats d'après-match quand il dit qu'il voulait faire. Qu'il a fermé des bouches, célèbre expression de footballeur.
Moi, je le trouve absolument grotesque, Kazri.
Dans sa déclaration?
Dans sa déclaration, dans sa préparation, dans ce qu'il fait depuis quasiment un an après qu'il ait eu sa période dorée, dans cette attitude de j'ai plus à travailler, j'ai plus à faire ce qu'il faut faire pour être un footballeur professionnel de haut niveau. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Claude Puel qui a clairement dit qu'il a eu une discussion avec lui d'homme à homme, entre guillemets. Mais ça, en fait, tu vois, ça me sidère. C'est-à-dire que Claude Puel est arrivé. Donc, en octobre, donc la saison a déjà démarré, Saint-Etienne a déjà été dans la merde, Saint-Etienne essaye de se relever, est l'un de tes joueurs phares, probablement l'un des plus gros salaires du club, il faut qu'à ce moment-là, tu aies une discussion les yeux dans les yeux pour dire à ce joueur important de ton club, est-ce que tu vas courir sur le terrain, quel genre d'effort t'es prêt à faire, quel est ton projet, tu vois, voilà, on est en Ligue 1.
Après, t'as des gars qui sont les affectifs, qui ont besoin de se faire un peu câliner de temps en temps.
En Ligue 1, on est dans un football professionnel, dans des salaires très importants, avec des gens qui vont au stade, et on en est à prendre un joueur les yeux dans les yeux pour lui demander ce qu'il a envie de faire et comment il va évoluer. Pardonne-moi, je trouve que c'est pas du tout professionnel, que c'est à la limite de la faute même professionnelle et que c'est l'indulgence qui caractérise notre Ligue 1, le manque de compétitivité et le je-m'en-foutisme généralisé dans énormément de clubs. Kadri est probablement en potentiel l'un des joueurs les plus techniques de Ligue 1. Il a été très important pour Saint-Etienne l'année dernière. Ce qui se passe en ce moment, sa réaction derrière son but, j'ai fait fermer des bouches, mais t'as fait fermer quoi ?
Ça fait six mois
que t'as rien foutu et tu vas fermer des bouches, mais quelle bouche tu vas fermer ? Tu me donnes envie de te gueuler dessus.
Pas la tienne apparemment, ça c'est sûr.
Il produit l'effet inverse.
Je suis d'accord à 50%. C'est-à-dire que sa réaction, elle a rien à faire là. Si les footballeurs savaient faire preuve d'humilité, ça se saurait. Après, sur ce qui s'est passé
Dieu
entre
eux, disait Mourinho.
Exactement. quant à la discussion qu'il y a dû avoir avec Puel, je sais pas si vous avez vu la punchline où notre Oberkommandant Puel a montré qu'il avait.
Tu l'appelles comme ça.
Un certain humour. Ouais, je l'appelle l'Oberkommandant. Ouais.
T'as vu la déclat où il a dit ce que j'attends de Kadri, c'est qu'il court sur le terrain.
Ouais, il a dit que je.
Moi, ça me suffit. Ça me suffit. Je trouve que c'est énorme. Je trouve que c'est dingue. Ouais.
Attends, je sais pas aller au bout.
Non, mais quand je lis ça, Joss va parler, mais franchement, je t'avoue, je ne l'écouterai pas. Pour moi, il n'y a aucun argument. Quand un entraîneur dit ça d'un joueur important de ton équipe, moi, je trouve que ça défonce tous les arguments.
Moi, j'ai envie.
Une fois que tu m'auras écouté, tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est ça, parce que tu imagines ce que je vais dire alors que je ne l'ai pas encore dit. ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que Puel ait présenté ses discussions à Kadri en lui disant « Écoute, dis-moi où tu veux jouer, qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. » Je pense qu'il a été plus directif que ça. Et Kadri, comme les autres, on a commencé à voir déjà, hein. S'il continue à pas faire les efforts, s'il continue à pas faire ce qu'il faut, je pense qu'il jouera plus, tout simplement. Et à mon avis, c'était pas une discussion de l'ordre de dire dis-moi ce qui va pas sur un divan de psy, hein. C'était dire voilà ce qui va pas, Wabi, j'ai vu ce qui allait pas. Maintenant, il va falloir que tu fasses ça et ça pour que ça aille.
Tu as raison, mais je vois pas pourquoi t'es pas d'accord avec moi quand tu dis ça.
Si, parce que tu l'as présenté comme disant c'est une discussion où il faut, avec un joueur comme ça, écouter ce qu'il a à dire.
Non, alors on s'est pas compris, pardonne-moi. Moi c'est pas comme ça que je le voyais. Ce que je dénonçais, c'est le fait que tu aies besoin au mois d'octobre, avec un changement d'entraîneur, de prendre un mec pour lui expliquer ce qu'il doit faire.
Alors on est 100% d'accord.
Ce que je dénonçais, c'est que sur un joueur important de l'effectif, un joueur technique, un leader technique, un des plus gros salaires du club, tu aies besoin de le cadrer. Je trouve ça dingue qu'on soit obligé de faire ça.
Alors ça renvoie à deux choses. Ça renvoie à la psychologie du footballeur actuel depuis une dizaine d'années et peut-être
footballeur en France, précise bien, en France.
Peut-être, en France. On a aussi quelques exemples aussi à l'étranger.
Mais chez nous, c'est pas un exemple, c'est une généralité.
Et ça renvoie aussi une deuxième chose, c'est, j'en démords pas, aussi à la faiblesse des institutions. Et chez nous, depuis
absolument.
Deux ans, ça a été absolument montré
absolument.
que c'est la République des joueurs. C'est-à-dire,
absolument.
Dès qu'il y en a un qui n'a pas envie, et ben, il brandit la menace de partir, qu'on fait une villa au mois de mai, et tout le monde s'écrase.
On est exactement sur la même ligne, hein, mon vieux. Je suis d'accord avec toi.
Sans en être absolument persuadé, je crois, et c'est ce qui me rend optimiste aujourd'hui, que Claude Puel fait partie de la génération des mecs qui n'acceptent pas ça. Et à partir du moment où ils lui ont réellement donné les clés du camion, ce qui reste quand même encore à prouver, parce qu'on avait cru avec Paquet que c'était le cas et ça ne l'était pas, ça doit changer des choses chez nous, et moi j'ai envie de croire à ça. Voilà.
Alors, on n'a pas parlé des boulets, ou du boulet. Dis-moi,
j'en ai parlé, moi.
Ah bon ?
J'en ai parlé en creux.
En creux avec Yann Mvila, c'est ça ?
En creux, j'ai compris.
Ouais.
D'accord.
Ouais, Yann Mvila. Un joueur qui a autant de responsabilités dans l'absolu, normalement, dans le jeu et dans l'encadrement du jeu et des joueurs, surtout quand tu mets des jeunes.
Il va encadrer quoi, une villa, il va encadrer quoi?
Tu peux pas être transparent comme ça. On a eu une discussion avec les potes après en disant mais en fait, sportivement, c'est clair qu'il doit essayer autre chose que Yann Mbila. Pourquoi pas essayer le jeune Madi Camara, qui est un très bon joueur de foot. Mais simplement, Claude Puel, il dit, je peux mettre un gamin de 18 et un gamin de 19 au milieu du jeu, sans avoir quelques cadres un peu partout sur le terrain qui vont apporter un peu d'expérience, qui vont arriver à les recadrer quand il s'emballe, etc. Sauf que même ça, il le fait pas. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'influence sportive,
il n'a plus d'influence dans l'encadrement
du projet collectif. Donc aujourd'hui, Yann Mbila est un problème, vraiment.
Alors, parlons maintenant des tribunes. Donc, tribunes derrière les buts vides contre Amiens. Ce sera également le cas dimanche prochain. Or, dimanche prochain, c'est quand même à 21h dans le match phare, quoi, à la télé. Donc, ça va quand même donner une image un peu moyenne du stade. Geoffroy Guichard, c'est pourtant un des stades les plus chauds.
Ouais, c'est le match de 21h.
Oui, c'est le match de 21h.
La semaine prochaine.
Oui. Saint-Étienne-Monaco.
Dijon PSG vendredi soir.
Voilà.
Et Lyon et Marseille, ça joue quoi? Ça fait quoi?
Bah écoute, tu regarderas le calendrier. Là, on parle de Saint-Étienne. C'était gentil. Pardon, on parle de Saint-Étienne.
Ça doit être un samedi 17h30, ça, j'imagine.
Voilà,
oui, oui, c'est ça.
Alors, au bout d'un moment, c'est quand même, c'est un préjudice pour le club. Je veux dire, bon, outre les amendes, etc., les relations hyper tendues, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête? Moi, j'ai envie de lancer un message aux ultras. Les gars, en fait, vous faites du mal, en fait. Faut arrêter, là, au bout d'un moment. C'est grotesque.
Au lieu de dire ça et de jouer à la nounou, demande-leur ce qu'ils veulent. Demande-leur ce qu'ils veulent.
Bah déjà, ils veulent que les présidents actuels se barrent.
Oui, et donc après, il se passe quoi? Il se passe quoi une fois que les mecs se barrent? Il se passe quoi? Qui reprend le club? Il y a un projet, c'est viable, c'est costaud.
Attends, avant d'aller là-dedans.
Qu'est-ce que veulent les mecs?
Avant d'aller là-dedans, Joss, toi, qui es dans le microcosme stéphanois tout le temps, là, sur ces sanctions à répétition, parce que ça n'arrête pas à Saint-Étienne, hein, je pense que franchement, vous êtes les mecs les plus sanctionnés. Fumigène, etc. Bon, là, sur ce coup-là, ça la fout mal quand même. Dimanche soir, 21h, Saint-Étienne-Monaco, pam, stade à moitié vide.
Ouais, mais ça la fout mal même avant ça. Enfin, je veux dire, déjà, hier, ça la foutait mal. Moi, j'ai emmené des gens voir un match qui sont de Bordeaux et qui. Voilà. Et quand je les ai invités, je ne savais pas que les tribunes allaient être suspendues. Tout le monde était vachement triste quand on l'a appris parce que c'est plus le même Geoffroy Guichard, tout simplement. C'est plus le même Geoffroy Guichard. L'ambiance, c'est pas la même.
C'est pas le chaudron, c'est la casserole. Hein.
Ouais, parce que les ultras, on en pense qu'on en veut, mais c'est quand même eux qui portent l'ambiance, quoi. C'est clair.
Ça, on est d'accord.
Les tifos, c'est les copes, etc. Alors moi, je suis un peu... C'est un sujet sensible. Alors, je ne vais pas me faire que des amis là-dessus, mais moi, je trouve ça dommage parce que c'est devenu un combat purement idéologique. On en a beaucoup parlé sur Twitter dans la semaine qui a précédé. Les mecs sont dans une logique de dire de toute façon, on ira jusqu'au bout de ce combat-là.
C'est quoi le combat?
Certains sont compris. Alors le combat, là, c'est de faire plier la Ligue sur les fumigènes. Point. Uniquement.
Oui, mais là, ils ont perdu d'avance.
Ben oui, évidemment qu'ils ont perdu l'avance. Certains l'ont compris, d'autres sont encore animés de l'idée que, à force, ils finiront par plier. Et évidemment, ils se trompent, ils plieront pas. Mais c'est un combat qui est suicidaire.
Mais c'est surtout que ça dépend pas que de la Ligue. Enfin, ils sont complètement à côté de la plaque, en fait. C'est pas la ligue qui dira demain OK maintenant on accepte les fumigènes parce que ça dépend aussi de ce que pensent les pouvoirs publics c'est absurde
mais ça c'est pas forcément
ça n'est que ça le combat idéologique c'est que les fumis. Il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière, le foot business, le machin, tout ça.
À Saint-Etienne, il y a surtout la guerre avec Romelu Lukaku, par ailleurs. Je veux dire, ça compte beaucoup.
Oui, mais Gilbert, oui, il y a la guerre avec Romelu Lukaku, mais alors, il leur reproche évidemment de ne pas défendre assez les ultras dans les instances. Mais là, en l'occurrence, les mandoles injurieuses, c'était des mandoles en partie contre la Ligue. Les fumigènes, c'est vraiment parce qu'ils considèrent que ça fait partie de l'ADN du supporter que d'avoir des fumigènes. Et c'est pas plus bête que ça. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est pour ça que je suis très inquiet sur le fait qu'on va encore avoir des tribunes fermées parce qu'ils ne sont pas prêts du tout à lâcher. Alors, les solutions, je sais pas s'il y en a. On va sortir la tarte à la crème. La solution, c'est le dialogue. Évidemment, c'est le dialogue. Mais quand tu dialogues avec des gens qui
veulent pas dialoguer,
qui comprennent pas d'un côté et de l'autre, d'ailleurs, c'est un peu une voie sans issue, quoi, à mon sens. Et par contre, le constat, c'est que c'est triste. C'est vraiment triste de voir Guichard sans les copes. Vraiment. Il y a plus le même univers, quoi. Enfin, tout simplement, hein, quand on voit l'explosion du stade sur le but d'Eric pendant le derby, c'était 30 secondes de magie, quoi. Quand Cazeré a marqué hier, il y a eu une explosion, mais c'était pas la même, quoi. Voilà. On n'a pas le même ressenti. Alors après, les ultras vont reprocher aux gens comme moi qui sont en Henri Point d'être plutôt des spectateurs et de ne pas porter cette ambiance-là. Mais d'un autre côté, je pense que le fait d'être historiquement et culturellement ceux qui portent l'ambiance à Geoffroy Guichard ne donne pas tous les droits non plus. Voilà.
Absolument.
En tout cas, ils peuvent venir s'exprimer dans l'after quand ils veulent, les ultra-stéphanois, même si genre, ils ne veulent pas le faire, mais nous, on est tout à fait ouverts. Merci Joss, on te retrouve évidemment sur peuplevert.fr avec tes chroniques concernant l'actu de l'AS Saint-Etienne. À très vite Joss, et le prochain podcast
merci,
After Saint-Etienne, ce sera la semaine prochaine. Salut à tous.
À bientôt.
After Saint-Etienne. Le podcast Gilbert Bribois.